Bien, alors avant d'aller plus avant dans la présentation de cette conférence, je salue d'emblée nos amis Tarnais qui nous rejoignent d'un lointain pays, éminents spécialistes aussi du méthodisme. Nous sommes heureux ici de recevoir monsieur et madame Prunier et nous les saluons chaleureusement. Nous inaugurons ce soir avec cette conférence ce nouveau cycle de la librairie Jean Calvin, cycle 2019, consacré donc à un thème intitulé « Protestantisme et minorité ». Ici, le but étant de chercher à comprendre les relations que le protestantisme a entretenues avec la question de la minorité, et pas avec seulement les minorités. Autrement dit, comment le protestantisme a entretenu son rapport avec le phénomène minoritaire, puisque lui-même, bien sûr, a été minorité au sein du territoire français, du royaume de France, et l'est toujours. Donc comment le protestantisme a vécu son propre aspect minoritaire au sein du royaume de France et puis ensuite de la République. Comment le protestantisme a entretenu aussi un rapport avec d'autres confessions en son sein minoritaires, et autrement dit, comment ce protestantisme français qui a été persécuté, a réagi lui-même face à l'émergence de nouvelles manières de concevoir la foi, y compris la foi protestante. C'est ce que l'on va aborder en partie ce soir avec l'émergence du méthodisme à la fin du XVIIIe siècle en France et au XIXe siècle. Mais comment aujourd'hui, par exemple aussi, et ce sera une des dernières conférences du cycle ici à Alès, comment aujourd'hui le protestantisme peut-être plus institutionnel, mais pas seulement, aussi des protestantismes évangéliques, conçoivent leur rapport avec un certain monde évangélique très remuant, très brillant parfois. Je pense à ce mouvement qu'est le mouvement Jeunesse en mission, et nous avons intitulé cette conférence « Fer de lance, Jeunesse en mission », où mouvement justement nouveau, complètement émergent. Et on a voulu donc se poser la question de savoir comment cette minorité évangélique posait des questions au protestantisme institutionnel ou au protestantisme évangélique, plus classique pour faire simple. Mais la question se pose aussi de savoir comment ce protestantisme a entretenu des rapports avec les minorités avec une minorité plus générale dans la société, que ce soit les exclus, toutes sortes d'exclus, comme les marginaux, les gens en rupture de société, mais aussi, par exemple, qu'on considérait comme fous au XIXe siècle, les handicapés. Et on abordera cette question avec la question et le travail, l'exploration du travail de la Fondation John Bost, qui s'est consacrée depuis ses origines à s'occuper des exclus, s'occuper de ce qu'on considérait comme des fous dans la société du XIXe siècle, et puis a étendu son travail aujourd'hui jusqu'aux personnes les plus handicapées. Voilà. Et puis, enfin, comment ce protestantisme a conçu aussi son rapport à la question minoritaire, cette fois avec un autre phénomène, la question de l'art, puisque l'art est une manière ou une expression mineure en protestantisme. On a voulu se poser cette question aussi, notamment avec des arts plus récents, comme la bande dessinée. C'est pourquoi on inaugurera le cycle protestantisme et minorité, à Paris, avec une conférence à trois voix, ou un dialogue plus exactement, entre Jean Dittard, auteur de la BD Florida, magnifique roman graphique que je vous conseille, sur l'exploration, la découverte de la conquête huguenote au XVIe siècle en Floride. Et on l'abordera, ce dialogue, avec Bertrand von Rumbeck et Franck Lestringant, deux spécialistes de l'Amérique huguenote. Voilà, donc vous voyez que ça va être un cycle assez large. Vous retrouverez ces conférences dans ce programme que nous éditons, qui est à votre disposition. N'hésitez pas à vous en munir, n'hésitez pas à en prendre plusieurs, à le faire connaître autour de vous, à le distribuer, à noter les dates. Je vous signale toutefois malheureusement l'annulation d'une conférence puisque au dernier moment le conférencier n'a pas pu obtenir la date qu'il nous avait promise. Il s'agit de cette conférence intitulée « Les chrétiens face au monde romain au 1er siècle ». Donc cette conférence est annulée. Pour toutes les autres, hein, elles sont maintenues. Vous verrez qu'il y a aussi plusieurs conférences hors cycle, hein, comme cette conférence Calvin le polémiste, qui aura lieu ici en novembre, aussi au pôle scientifique et culturel de Rochebelle. Nous sommes très heureux ce soir de recevoir Jérôme Gros-Claude, qui a consacré sa thèse au méthodisme et qui va évoquer avec nous ce soir ce méthodisme introduit en France. Jérôme est maître de conférence à l'université de Clermont-d'Auvergne. Et donc, il va nous entretenir de ce sujet pendant environ une cinquantaine de minutes. Hein, et puis après quoi, on pourra avoir un temps d'échange. Je te laisse tout de suite la parole, Jérôme.
Merci Franck de ce mot d'introduction. Je suis très heureux d'être ici à Alès. Je vous remercie d'être venus aussi nombreux. J'espère que vous êtes vraiment là, non pas pour vous mettre à l'abri du froid et pour trouver un endroit pour être au chaud, mais réellement pour écouter cette communication. Bon, ceci dit, en cette saison, trouver un endroit chaud n'est pas forcément un luxe. Le méthodisme en France, vous le savez, a toujours été une minorité au sein du protestantisme français, lui-même excessivement minoritaire, on le sait. L'année 1870, où l'on comptait 30 pasteurs méthodistes et 184 lieux de culte en France, fut ainsi le haut d'une vague qui se retira lentement jusqu'en 1938, lorsque le méthodisme se fondit dans l'Église réformée de France. Des communautés refusant cette fusion gardèrent une existence indépendante, mais finirent par passer sous le contrôle de l'Église méthodiste unie, United Methodist Church, j'ai bien prononcé, okay. Église d'origine états-unienne. Elles sont actuellement 24, ces églises méthodistes, regroupées au sein de l'Union de l'Église évangélique méthodiste de France, elle-même rattachée à l'Église méthodiste unie. Toutefois, au niveau mondial, la situation est très différente. Les méthodistes sont présents sur tous les continents, sauf en Antarctique, alors je ne sais pas pourquoi, avec plus de 40 millions de fidèles, dont donc, 1290 en France au dernier recensement. Ces 40 millions de méthodistes sont répartis dans 138 pays. Donc pour donner une échelle de comparaison, la communion anglicane compte 80 millions de fidèles, répartis dans 135 pays. Alors je ne sais pas quels sont ces trois pays où il y a des méthodistes, mais pas d'anglicans. L'Église méthodiste est très présente aux États-Unis, comme nous le signalait non sans humour ce dessin paru lors de la dernière campagne présidentielle. Donc vous voyez Hillary Clinton habillée. Bon, ça se passe de commentaires. En effet, avec 10 millions de fidèles, la United Methodist Church est la deuxième église aux États-Unis, après l'église catholique et ses 70 millions de fidèles. L'église méthodiste unie américaine est donc la première église protestante aux États-Unis. Certains parlent même d'elle comme de l'église nationale, car elle est présente dans toutes les couches et toutes les ethnies de la société, et n'est pas associée à un groupe en particulier, contrairement par exemple aux baptistes, qu'aux États-Unis, on associe plus au Sud et aux Afro-Américains, ou aux catholiques, qu'on associe souvent aux latinos. L'Église méthodiste unie américaine a donné 5 présidents aux États-Unis, et donc il y en aurait eu un 6e si Hillary Clinton avait été élue en 2016. C'est bien sûr la seule raison pour laquelle on peut regretter qu'Hillary Clinton n'ait pas été élue présidente des États-Unis. L'Église méthodiste unie américaine, comme beaucoup d'églises américaines, a été marquée et reste marquée dans son histoire par la question de l'esclavage et les clivages raciaux. Donc, revenons à la situation française. La situation française n'est pas si étonnante que ça, puisque, en dehors des îles britanniques, le méthodisme est quasiment inexistant en Europe continentale. En 1971, déjà, Claude Jean Bertrand, dont l'ouvrage figure sur la bibliographie qui vous a été distribuée et que les derniers arrivés n'ont pas pris, c'est au premier rang. Donc en 1971, Claude Jean Bertrand notait néanmoins que l'on trouvait des groupes réduits de 1000 à 5000 fidèles dans presque tous les pays d'Europe. Alors, je ne vais pas tous les citer, mais par exemple, on pourrait citer la Norvège, où la prédication commence en 1853, de la Bulgarie à partir de 1857, du Danemark 1859, de la Finlande 1866, etc., etc., jusqu'aux États-Baltes, où les prédicateurs méthodistes arrivent en 1904, de l'Espagne catholique en 1919, de l'ex-Yougoslavie en 1921, de la Belgique, de la Tchécoslovaquie, de la Pologne en 1922, j'en passe et des meilleurs. La situation n'a guère changé aujourd'hui, puisque tous ces pays que j'ai nommés ont toujours des communautés méthodistes, à en croire le Conseil méthodiste mondial. Le méthodisme est donc toujours présent dans la plupart des pays d'Europe, mais son audience est extrêmement limitée, encore une fois, en excluant les îles britanniques, à l'exception peut-être de l'Allemagne, où le méthodisme fut introduit en 1931, à l'occasion d'une mission lancée par un Wesleyen allemand de retour des États-Unis. Au tournant du XXe siècle, les méthodistes d'allégeance américaine s'unirent à ceux d'obédience britannique. Et on arrive en 1970 à environ 53 000 méthodistes, dont la moitié en RFA. Pour les plus jeunes d'entre nous, la RFA, c'était la République de l'Ouest. Presque 50 ans plus tard, ce chiffre est passé à environ 30 000, donc dans une Allemagne bien sûr réunifiée. Pour faible que soit ce chiffre, hein, rappelons que l'Allemagne compte actuellement 83 millions d'habitants, il est bien supérieur au nombre d'adhérents que comptent habituellement les églises méthodistes européennes. Notons d'ailleurs que c'est d'Allemagne que vinrent les prédicateurs qui introduisirent le méthodisme en Suisse en 1857, même si la Suisse francophone bénéficia aussi de l'influence des méthodistes français. Malgré sa proximité géographique avec la Grande-Bretagne, le berceau du méthodisme, le développement de celui-ci en Europe continentale est surtout dû à des émigrants, donc surtout germanophones ou scandinaves, étant donné que des confessions méthodistes américaines s'adressaient spécifiquement à ces populations. Ailleurs, ce fut le fait d'équipes de secours américaines venues pendant la Grande Guerre et qui se transformèrent en missions pérennes. Cela explique que la plupart des églises méthodistes européennes soient regroupées au sein de la Conférence centrale pour l'Europe du Centre et du Sud, qui dessert l'Albanie, l'Autriche, la Bulgarie, la République tchèque, la Slovaquie, la France, la Hongrie, la Pologne, la Suisse et l'ex-Yougoslavie. Je précise que ce n'est pas le tirage de la prochaine Coupe du Monde de foot, mais bien les pays représentés dans cette conférence centrale. Toutefois, l'histoire du méthodisme français est particulière, en ce qu'il resta longtemps à l'écart de l'influence américaine et évolua pendant 150 ans à l'ombre de cette église méthodiste mère qui la contemplait de l'autre côté de la Manche. Ce cas est probablement unique en Europe continentale, même si, après la disparition de l'église méthodiste de France en 1939 et sa dissolution au sein de l'église réformée de France, les quelques communautés qui continuèrent une existence autonome finirent, je l'ai dit, par se rattacher à l'église méthodiste unie. Nous pouvons distinguer globalement trois périodes dans le méthodisme français. De 1783 à 1852, les communautés méthodistes françaises sont sous la responsabilité de la conférence wesleyenne britannique. De 1852 à 1939, l'Église évangélique méthodiste de France vit une existence indépendante. Et enfin, après 1939, c'est un méthodisme squelettique qui survit en France. C'est tout ce que je l'ai mis. Voilà. Donc nous allons tout d'abord nous pencher rapidement sur la naissance du méthodisme au Royaume-Uni au début du XVIIIe siècle, puis sur l'arrivée du méthodisme en France par la Normandie, puis nous étudierons la consolidation et la disparition du méthodisme français, c'est-à-dire de cette église évangélique méthodiste de France, et donc nous conclurons par une courte bibliographie et conclusion. Donc, avant de commencer, je tiens à noter les trois points essentiels du méthodisme qu'on va retrouver tout au long de son histoire. Donc, le premier, c'est ce qu'on appelle le connexionnalisme, connectionalism. Deuxièmement, l'itinérance, itinerancy, donc l'itinérance des pasteurs. Et troisièmement, l'évangélisme, evangelicalism. Donc, j'y reviendrai au cours de la première partie de cet exposé. Le méthodisme naquit officiellement en 1738, du désir d'un prêtre de l'Église d'Angleterre, John Wesley, de présenter le christianisme comme une rencontre personnelle avec le Christ. Il fut, dès le départ, aidé par son frère Charles, dont je n'ai pas mis la photo dans mon diaporama, lui aussi prêtre anglican. choqué par l'éloignement des valeurs évangéliques que constatait John Wesley chez bon nombre de ses contemporains, y compris des pasteurs de l'Église d'Angleterre, il fonda dans les années 1730 des sociétés religieuses, dont les membres s'astreignaient à une discipline rigoureuse et à une gestion méthodique de leur temps, afin de s'assurer que pas un seul moment de leur journée ne soit perdu pour le service de Dieu. C'est de là que va venir ce nom de méthodiste, qui au départ est un terme de moquerie et qui va être repris avec fierté par Wesley et par les méthodistes eux-mêmes. Ce ministère commence à Oxford en mai 1729, où John Wesley était prêtre et enseignant depuis un an. John organisa avec 4 étudiantes une société religieuse qui fut rapidement surnommée le Saint Club, The Holy Club. Alors j'avais pensé traduire The Holy Club par le Club des Saints, mais ça faisait un peu Enid Blyton, donc je trouve que le Saint Club, c'est mieux. Et donc, ses membres furent surnommés les méthodistes, hein, au regard du découpage précis de leur journée selon différentes activités. On les appelait aussi les sacramentaires, sacramentarians, au vu de leur fréquentation quotidienne des sacrements, donc qui était très rare à l'époque. La plupart des Anglicans, y compris les prêtres, se contentaient de communier 4 fois par an, comme le rituel anglican les y obligeait. Et les y oblige toujours en théorie. Étant le seul membre du groupe, le seul prêtre du groupe, pardon, et son membre le plus âgé, et sans doute aussi au regard de sa personnalité, John Wesley assura tout naturellement, et ce dès le début, la direction de la société religieuse. Les membres du club partageaient leur temps entre, d'une part, des activités purement spirituelles, telles que la lecture des textes sacrés, la prière, la participation quotidienne aux services religieux, et, d'autre part, une mise en œuvre concrète de ce qu'ils avaient lu dans l'Évangile par le biais d'actes de charité. Visite aux prisonniers, donc qui était quelque chose qui ne se faisait absolument pas, à tel point que Wesley demande à son évêque s'il a le droit de le faire. Et donc son évêque dit qu'il n'y a pas de, rien ne l'interdit. Voilà. Personne ne le fait, mais ce n'est pas interdit. Comme autres activités, la participation quotidienne aux services religieux, bon, ce qui là pour le coup était plus fréquent, et d'autre part, je me suis trompé de ligne, aide financière et matérielle aux familles dans le besoin, instruction offerte aux enfants pauvres. Lorsque John Wesley fut nommé pasteur d'une communauté anglicane à Savannah, en Géorgie, de début 1736 à décembre 1737, donc Géorgie dans les 13 colonies d'Amérique du Nord, hein, pas en Russie bien sûr, c'est tout naturellement qu'il créa une société similaire d'environ 20 et 30 personnes. Comme plus tard dans le méthodisme proprement dit, les membres de cette société s'engageaient à se retrouver chaque semaine et à se soumettre à un suivi spirituel important en même temps qu'à assister à l'office dominical au cours duquel Wesley célébrait la Sainte Cène, ce qui était donc encore une fois très rare de célébrer la Sainte Cène une fois par semaine. Ces deux premières expériences de société religieuse anglicane ne durèrent guère. Le Holy Club s'était dissous lorsque les frères Wesley avaient quitté l'Angleterre, et la société de Savannah disparut lorsque John Wesley dut quitter précipitamment l'Amérique. Alors, on ne sait pas exactement pourquoi, mais mon petit doigt me dit qu'il aurait prétendument refusé la communion à une jeune femme dont il était épris, mais qui devait en épouser une autre. Un autre, pardon. En fait, il fallut un événement sensationnel dans la vie de John Wesley pour que sa vie prenne un tour inattendu. Ainsi, le 24 mai 1738, John Wesley connut une conversion brutale, au cours de laquelle, affirma-t-il, son cœur fut envahi d'une étrange chaleur, tandis qu'il était pénétré de la conviction que Dieu lui avait pardonné ses péchés. Wesley écrit ainsi, alors il écrit après, hein, bien après l'événement, donc je cite, en français, « Le soir, je me rendis de très mauvais gré à une société d'Aldersgate Street, donc c'était à Londres, où quelqu'un lisait la préface de Luther à l'Épître aux Romains. Vers environ 9h moins le quart, tandis qu'il décrivait les changements que Dieu opère dans le cœur par la foi en Christ, je sentis une étrange chaleur envahir mon cœur. Je sentis que je me fiais au Christ, au seul Christ, pour être sauvé, et qu'on venait de m'assurer qu'il avait pris mes péchés, mes propres péchés. Donc « mes » et « mes propres » sont soulignés dans le texte original, « et qu'il m'avait sauvé, moi, souligné, de la loi du péché et de la mort. » Fin de citation. Il décida alors de parcourir tout le pays comme prédicateur itinérant, parcourant en 50 ans 400 000 kilomètres, le plus souvent à cheval, à travers toute la Grande-Bretagne et l'Irlande, afin de, je cite, « répandre dans tout le pays la sainteté telle qu'elle apparaît dans l'Écriture ». Fin de citation. « Spread scriptural holiness of the land ». Et d'inviter ses contemporains à s'ouvrir à l'action de cet Esprit Saint qu'il avait ressenti lui-même de façon si bouleversante. Prêtre ordonné, mais sans responsabilité pastorale officielle, il n'avait pas de cure, il devait déclarer en juin 1639 « Je considère le monde entier comme ma paroisse ».« I look upon the whole world as my parish ». Fin de citation. Au fur et à mesure de sa prédication et devant son succès, Wesley encouragea les personnes désireuses comme lui de vivre leur foi intensément à créer des communautés, ou sociétés, societies, de chrétiens souhaitant suivre son exemple. Le méthodiste britannique, à ce moment-là, appartenait donc en principe à deux communautés en même temps. Celle formée par les méthodistes locaux, donc société unie aux autres communautés du pays par l'allégeance aux principes posés par John Wesley, donc c'est cela que les méthodistes appelaient et appellent le connexionnalisme. Donc ces communautés sont indépendantes les unes des autres, mais unies par une allégeance commune aux principes posés par Wesley. Mais ils appartenaient aussi, en même temps, comme dirait l'autre, à la communauté paroissiale anglicane, en général, bien sûr, beaucoup plus large. Cette double appartenance n'était nullement antinomique pour John Wesley, qui concevait le méthodisme comme un mouvement destiné à revitaliser l'Église d'Angleterre, le levain dans la pâte. Penchons-nous plus avant sur la méthode d'évangélisation choisie par le père du méthodisme. John Wesley, puis à sa suite les prédicateurs itinérants, prêchaient en plein air et parcouraient le pays à cheval en général pour ce faire. Une telle méthode revenait à prendre le contre-pied d'une structure adoptée par l'immense majorité des églises, c'est-à-dire celle qui voit à un ministre du culte correspondre une communauté particulière, donc communauté qui se définit en général sur des critères territoriaux, et ce, pour un temps plus ou moins long. Le concept clé du méthodisme, qui s'affirma très rapidement, était en effet l'itinérance des prédicateurs, donc que je mentionnais en ouverture. En effet, ces prédicateurs étaient tenus de visiter le maximum de villes et de villages au sein de leur circuit. En principe, le prédicateur itinérant prêchait dans une ville différente chaque jour. Ajoutant à cette mobilité locale, les prédicateurs itinérants devaient changer de circuit tous les 3 ans au moins. Cette politique reposait sur l'idée qu'un changement régulier et institutionnalisé ne pouvait que stimuler les fidèles ainsi que les prédicateurs et empêcher les uns et les autres de sombrer dans l'ennui. Donc par exemple, si les prédications de votre pasteur vous ennuient, n'hésitez pas à lui parler du méthodisme, lui dire qu'on peut changer de communauté, voilà, qu'il y a un précédent, etc. Je précise par honnêteté, ça ne me ressemble pas, mais je le précise quand même, que le méthodisme connaissait et connaît quand même des prédicateurs laïcs sédentaires qui exercent un emploi à côté de leur activité religieuse. Mais les prédicateurs itinérants devaient exercer ce ministère à plein temps. Passons à la deuxième partie de cette communication que j'ai intitulée « La France, pays de mission méthodiste ». Le méthodisme pénétra en France par les îles anglo-normandes. Celles-ci, vous le savez peut-être, n'appartiennent pas au Royaume-Uni, mais sont possession personnelle du souverain d'Angleterre en tant que duc de Normandie depuis le XIe siècle. C'est du reste pourquoi, si vous allez dans les îles anglo-normandes, si on porte un toast au souverain, on ne porte pas un toast à la reine, mais au duc de Normandie, qui est donc Élisabeth II. Je ne sais pas si vous suivez. Voilà. Les premiers prédicateurs méthodistes britanniques se rendirent dans les îles anglo-normandes en 1783, et John Wesley lui-même visita l'archipel en août 1787. 4 ans plus tard, au cours de l'été 1791, un commerçant méthodiste de Guernesey, Jean Angel, que ses affaires amenaient à Courseulles-sur-Mer, dans le Calvados, donc Courseulles-sur-Mer est un port à 18 km au nord de Caen, qui comptait 1316 habitants en 1793. Donc, se rendant à Courseulles-sur-Mer, il découvre que la petite communauté protestante locale était apparemment dépourvue de pasteur. En réalité, ce qu'il ignorait, c'est qu'un pasteur canet desservait la localité deux ou trois fois par an. En tout état de cause, il n'y avait pas de temple. À Courseulles-sur-Mer, le temple ne sera bâti qu'en 1822 sur un marécage à l'extérieur de la ville. Ça fait plaisir. Choqué par l'apparent dénuement spirituel de ces coreligionnaires protestants, Jean Angèle proposa à la communauté de leur procurer un prédicateur résident, ce qu'ils acceptèrent. Peu de temps après, alerté par Jean Angèle, la conférence britannique envoyait Jean de Quetteville. Alors, attends, je dois avoir une photo de Jean de Quetteville, voilà. Donc, Jean de Quetteville, prédicateur itinérant, alors bien sûr francophone, hein, pour aller en Normandie, ça peut aider. Donc, prédicateur itinérant venu de Guernesey, arriva accompagné d'un prédicateur laïque originaire de la même île, William Mahy, dont je n'ai pas de photo, dont je n'ai pas d'image. Donc, William Mahy, qui était, bien sûr, lui aussi francophone. Les deux hommes visitèrent plusieurs communautés protestantes donc autour de Courseulles-sur-Mer pendant un mois, après quoi Jean de Quetteville regagna les îles anglo-normandes et laissa William Mahy poursuivre seul la tâche. Oui, Mahy, M-A-H-Y. Ce dernier paraissait produire de bons résultats et son œuvre attira l'attention de Thomas Coke. Donc, Thomas Coke, prêtre de l'Église d'Angleterre depuis 1772, qui était également docteur en droit, c'est pour ça qu'on l'appelle généralement Dr. Coke, était, dès 1776, devenu disciple de John Wesley, dont il devint le bras droit jusqu'à la mort de Wesley, puisque Coke était l'un des très très rares prêtres anglicans à avoir suivi John Wesley. Coke était très intéressé par le rapport que lui faisaient Mahy et Quetteville. Il se rendit avec eux à Paris en septembre 1791. Entre-temps, Coke les avait ordonnés diacres, puis anciens, c'est-à-dire prêtres en réalité. Sur la base de rapports manifestement faux, Coke était persuadé que la chute du catholicisme en France, donc du fait de la Révolution, garantissait la prospérité spirituelle à toute mission protestante. Coke écrit des lettres dithyrambiques où il dit « Ça y est, enfin, l'hydre papiste a été abattue et les Français sont prêts à entendre la vraie religion chrétienne. » Après avoir acheté dans Paris une église désaffectée pouvant contenir entre 2000 et 2500 personnes, donc bon, Paris comptait 600 000 personnes à l'époque, Thomas Coke fut ulcéré de constater que le sermon inaugural de Jean de Quetteville n'attirait que 36 auditeurs et que son propre sermon, prononcé lui aussi en français, n'amena que 6 personnes le lendemain. Alors, je ne sais pas si sur les 36, il y en avait 6 qui étaient restés ou si c'était 6 nouvelles personnes. En tout état de cause, Coke était ulcéré, d'autant plus qu'il ne parlait pas du tout français. Et donc, il avait appris son sermon phonétiquement pour donc 6 personnes. Thomas Coke quitta donc la France et vous ne serez pas surpris d'apprendre qu'il n'y revint jamais. Toutefois, en 1796, lorsqu'il fut question que Thomas Coke se consacrât entièrement à l'Église épiscopale méthodiste américaine, il accepta, avec cette seule réserve, à moins qu'un chemin ne s'ouvre vers la France. Donc, ce qui donne en anglais « unless a way should be opened to France ». Fin de citation. Pendant les années qui suivirent, le méthodisme en France resta cantonné à la Normandie et continua à bénéficier des efforts acharnés de William Mahy, qui devait rester là pendant 19 ans. En dehors des visites ponctuelles de Jean de Quetteville, où Quetteville revint 15 jours en 1792 et 3 ou 4 mois en 1802, William Mahy était bien isolé, et ce à trois égards. Premièrement, il était le seul pasteur méthodiste dans toute la France. Deuxièmement, il était de naissance sujet d'un pays en guerre avec la France pendant quasiment toute la période révolutionnaire et le Premier Empire, puisqu'en 1793, la France républicaine déclare la guerre à la Grande-Bretagne et il faut attendre 1815 et Waterloo, pas la chanson de Abba, hein, la bataille, pour que la paix revienne entre nos deux pays. Ces 22 ans de guerre ne s'interrompirent que pendant un an, de 1802 à 1803, pendant la paix d'Amiens, qui en réalité était une paix armée pendant laquelle chacun des deux adversaires prépara ses forces pour un retour des combats, ce qui ne manqua donc pas d'arriver. Troisième raison de la solitude de William Mahy, il était protestant, dans une région et un pays très majoritairement catholiques. Malgré tous ses efforts, ainsi, William Mahé ne parvint pas à fonder un culte à Caen, en raison notamment de l'attitude hostile du pasteur et du consistoire réformé cannais. Selon Théophile Roux, donc historien du méthodisme du XXe siècle, qui se fait ici l'écho de Mathieu Lelièvre, les réformés cannais craignaient que la prédication de Mahé n'amène des protestants à changer d'église. Inutile de dire que, par ailleurs, Mahé et les méthodistes étaient aussi en butte à l'hostilité des catholiques. Pour des raisons de santé, Mahé finit par quitter la Normandie en 1810 et mourut 3 ans plus tard dans les environs de Manchester. Dans les dernières années de son ministère, William Mahé avait été épaulé par un gentilhomme breton, dont je n'ai pas non plus l'image ici, Pierre du Pont-Avis. Ayant découvert la prédication méthodiste après avoir quitté la France en 1789, puisque donc c'était un aristocrate, comme vous l'avez peut-être deviné, cet émigré avait été reçu prédicateur itinérant en 1800 par la Conférence britannique qu'il avait affecté dans les îles anglo-normandes. De là, il avait été envoyé en France en 1802, quand la fragile paix d'Amiens que j'évoquais à l'instant avait à nouveau ouvert les communications avec le continent. Pendant 8 ans, Pierre du Pont-Avis parcourut la Normandie comme prédicateur évangélique. Le 15 décembre 1805, après avoir subi les examens oraux habituels, il fut ordonné pasteur de l'église réformée à Paris et devint second pasteur à Bolbec, un poste qui desservait 5 paroisses dans le pays de Caux. Selon son biographe, Pierre du Pont-Avis était surtout désireux de profiter des protections légales qu'accordait le Premier Empire aux ministres ordonnés des 3 cultes reconnus, catholiques, protestants et juifs. Tout en se consacrant à ce nouvel apostolat, l'aristocrate breton maintenait son lien avec les méthodistes. Il faut noter qu'il ne voyait apparemment là aucun paradoxe, être pasteur méthodiste mais ordonné par les réformés, puisque son apostolat lui paraissait fondamentalement protestant et ne relevant pas d'une confession en particulier. Son ministère fut de courte durée, puisqu'il mourut 8 ans après son retour dans son pays natal. Il faut noter que Pierre du Pont-Avis eut d'ailleurs droit à sa mort, à la nécrologie, que consacrait habituellement la Conférence méthodiste britannique à ses pasteurs décédés dans l'année. Sa nécrologie est dûment publiée dans les procès-verbaux de 1811. Pendant 4 ans, les méthodistes français, c'est-à-dire normands, furent livrés à eux-mêmes, jusqu'à ce que la première abdication de Napoléon Ier ouvre à nouveau la porte de la France aux missionnaires wesleyens britanniques. C'est alors qu'entre en scène Armand de Kerpesdron, un autre aristocrate breton, qui avait lui aussi gagné l'étranger après 1789. Après s'être consacré 3 ans, de 1811 à 1814, à l'évangélisation des prisonniers de guerre français retenus au Royaume-Uni, Kerpesdron fut envoyé à Jersey, puis à Bruxelles, je ne sais pas pourquoi à Bruxelles, avant d'être rappelé en France en 1815. Il décida en 1818 de fixer son ministère à Mer, dans le Loir-et-Cher, à la suggestion du comité des missions wesleyens, car cette ville de 3500 habitants comptait une importante communauté protestante, environ 1000 fidèles, quand même presque un tiers de la population, communauté dépourvue de pasteurs. Désireux, comme Pont-Avis, de bénéficier d'un statut officiel, Armand de Kerpesdron sollicita du gouvernement de Louis XVIII le poste vacant de pasteur de la ville. Et c'est ainsi qu'en février 1820, il fut nommé très officiellement pasteur de l'église consistoriale réformée de Paris, exerçant ses fonctions dans la commune de Mer. Il devait y rester jusqu'à sa mort, 34 ans plus tard, en 1854. Comme Pierre du Pont-Avis, il ne voyait aucune contradiction entre cette position et sa fonction de missionnaire méthodiste. C'est d'ailleurs au nom de son statut de pasteur méthodiste, qui avait été reconnu par la Conférence britannique en 1812, qu'il refusa d'être consacré, ou plutôt reconsacré, donc pasteur, lors de sa nomination à Mer. Du reste, la Conférence britannique continuait à le considérer comme l'un des siens, et son nom figura encore longtemps dans les listes de prédicateurs itinérants en poste, avec juste une seule ligne, donc je crois que c'est France, Armand de Kerpesdron. Donc passons à présent à la troisième partie, consolidation puis disparition, pour ainsi dire, du méthodisme en France. Quelques années après la chute de l'Empire en 1918, la conférence envoya en France le pasteur Charles Cook, immense figure du méthodisme français. Il devait jouer le rôle de chef du méthodisme français pendant une quarantaine d'années et introduisait la prédication de John Wesley dans de nouvelles régions, les Cévennes, la Drôme, le Vaucluse. Bien loin de se limiter à la Normandie, Charles Cook parcourut donc la France et alla même jusqu'à Lausanne. Les conférences de cette ville furent pour cette raison rattachées à la structure méthodiste française pendant longtemps. Sous sa direction, le méthodisme français connut plusieurs innovations. Publication d'un journal intitulé Le Magasin Wesleyen, donc magasin étant une forme ancienne du mot magazine, à partir de 1843, ouverture d'école du dimanche, création en 1860 à Nîmes de la Maison d'études, première faculté de théologie méthodiste. Mais la principale innovation fut la constitution d'une conférence française autonome, incluant donc, je l'ai dit, Lausanne, donc jusqu'en 1901, constitution qui fut décidée lors de la conférence de Nîmes en septembre 1852. Cette prise d'indépendance, bien loin de se faire contre la conférence britannique, se fit au contraire avec elle. Ce fut le comité missionnaire wesleyen qui prépara cette étape, et il continua même à envoyer subsides et pasteurs à l'église évangélique méthodiste de... à l'église évangélique méthodiste de France et de Suisse, puisque c'était son nom officiel. Du point de vue de l'organisation, les communautés méthodistes françaises étaient réparties en deux districts, donc Nord et Midi, donc la première incluait notamment Paris, la Normandie et le canton de Vaud, le deuxième incluait, entre autres, Nîmes, les Cévennes, la Drôme et les Hautes-Alpes. Charles Cook fut le premier président de la conférence française et le resta jusqu'en 1958. Le fonctionnement de cette institution était assez original, surtout si on le compare à son homologue britannique. La conférence, qui en 1898 prit le nom de synode, se réunissait une fois par an et alternait entre chacun des deux districts. Les pasteurs du district où elle se tenait se réunissaient tous, et deux délégués de l'autre district y assistaient avec voix consultative. En 1879, des délégués laïcs participèrent pour la première fois à la conférence. Ce n'est sans doute pas un hasard si la conférence britannique avait pris la même décision après de longs débats l'année précédente. Les délégués laïcs passèrent de 2 à 4 avant que la décision ne soit prise en 1890 qu'il y aurait dorénavant, comme chez les méthodistes britanniques, autant de délégués laïcs que de pasteurs, donc les pasteurs étant tous de droit membres de la conférence, selon l'usage venu d'outre-Manche. Enfin, la nouvelle confession se dota d'un journal, Archives du méthodisme, puisque le magasin wesleyen avait changé plusieurs fois de nom, avait interrompu plusieurs fois sa publication. Les Archives du méthodisme, qui durèrent 4 ans, de 1953 à 1957. Cette publication était portée à bout de bras par deux pasteurs qui y écrivaient la plupart des articles, Jean-Paul Cook, fils de Charles Cook, et Mathieu Gallienne, par ailleurs, premier vice-secrétaire de la conférence en 1953. Cette revue consacrait une très large place aux informations sur le méthodisme étranger, en général les pays anglophones, et aussi, curieusement, la Chine. Un bon exemple de cette revue est fourni par le numéro du 2 septembre 1953, qui comporte 8 pages et qui en consacre presque 5 à l'Australie, l'Angleterre et l'Irlande, une demi-page sur la Chine, et la Jamaïque, les États-Unis et le Canada. Donc, tour du monde en 8 pages. Le méthodisme français, devenu donc officiellement indépendant, connut une progression constante, mais restait extrêmement modeste. 19 ministres et proposants et 5 lieux de culte en 1853, 30 de l'un et 184 de l'autre en 1870. La guerre franco-prussienne de 70-71 signe le début d'une lente agonie pour le méthodisme français, sans qu'il ait nécessairement de lien entre les deux événements. Toujours est-il qu'en 1893, le nombre de pasteurs était tombé à 24, soit une baisse de 20%, et le nombre de lieux de culte à 138. Donc je vous rappelle qu'il était de 184, 23 ans plus tôt. La situation n'alla pas en s'arrangeant. Théophile Roux n'hésite pas à parler, je cite, « d'un arbre malade » et d'une, je cite, « évolution affaiblissante ». pour décrire le méthodisme de la période 1893-1914. Il renonce même dès lors, dans son histoire du méthodisme français, à donner à son lecteur des statistiques sur le nombre de pasteurs et de lieux de culte méthodiste en France. Il se contente de noter que deux pasteurs et deux proposants moururent pour la France pendant la Grande Guerre. Il s'agissait des pasteurs Bertin Aguillon et Jules-Philippe Guiton, et de messieurs Étienne Klein et Paul-Auguste Issartial. Il paraît normal, un siècle après la fin de cette guerre, que leur nom soit mentionné à tous. À cette époque, l'Église épiscopale méthodiste, américaine donc, entama une mission en France qui fut bien reçue par leurs coreligionnaires. Même si l'idée apparemment avancée par les Américains que la conférence française passe sous l'autorité de son homologue d'outre-Atlantique fut repoussée. On ne sait pas pourquoi. Claude-Jean Bertrand et Théophile Roux, donc deux historiens que j'ai déjà mentionnés du méthodisme au XXe siècle, insistent tous les deux sur le peu d'adhésion que suscita l'Église méthodiste en France. Le premier, Claude-Jean Bertrand, note que, je cite, « elle était trop dispersée et trop pauvre en argent et en hommes. Ses convertis abandonnaient les sociétés après leur mariage. Beaucoup de sympathisants ne voulaient pas rompre avec l'Église réformée. » Fin de citation. Alors, Bertrand fait cette remarque dans le contexte de l'entre-deux-guerres mondiales, mais il ne fait aucun doute qu'il la considère comme valable avant même cette période. Pour lui, c'est une généralité. Quant au second, Théophile Roux, il commente que les méthodistes, je cite, « ne réunirent que de très petits auditoires en général ». Fin de citation. La taille minuscule de l'Église méthodiste française est d'ailleurs attestée par le petit nombre de ses pasteurs. Théophile Roux peut ainsi s'offrir le luxe de les nommer quasiment tous nommément dans son histoire du méthodisme. Il en compte 19 en activité à un moment ou à un autre, entre 1834 et 1852. Il note également que pendant ces 18 ans précédant la création d'une conférence indépendante en France, et donc en Suisse, il n'y eut que 7 consécrations de pasteurs en France. Donc il y avait des consécrations, on l'a vu, au Royaume-Uni. Mais... tout cela explique probablement pourquoi, lorsque la majorité des protestants français décidèrent de s'unir au sein de l'Église réformée de France en 1938, les méthodistes s'y associèrent. Le traditionnel arminianisme méthodiste ne paraît pas avoir été un frein à cette union, à laquelle seule une poignée de communautés se refusa. Pour celles qui acceptèrent, comme pour celles qui refusèrent, 1938 sonna de toute façon le glas d'un méthodisme français réellement indépendant. Le baiser de la mort ainsi donné par les réformés à leurs frères méthodistes condamna ces derniers à se dissoudre dans une confession aux traditions et aux références relativement différentes des leurs. Quant aux communautés qui préférèrent garder la vieille maison, elles périclitèrent toutes plus ou moins. Une génération plus tard, en 1970, donc quand Claude-Jean Bertrand écrit, il y a 11 sociétés méthodistes, dont 3 en Alsace, sous l'autorité d'un évêque suisse, donc de l'Église méthodiste unie, d'obédience américaine. Il y en avait 2 en Île-de-France et 6 dans le Gard. Elles sont actuellement 19, regroupées au sein de l'Union de l'Église évangélique méthodiste de France, elle-même rattachée, on le sait, à l'Église méthodiste unie. L'Église évangélique méthodiste de France est membre de la FPF et du Conseil national des évangéliques de France, fondée en 2010. Donc pour conclure cette partie consacrée à la brève, trop brève, histoire du méthodisme français, je laisse la parole au pasteur Théophile Roux, celui qui eut la charge d'écrire, selon ses termes, l'oraison funèbre, c'est le terme qu'il utilise dans son livre, du méthodisme français. Je cite. En parlant d'années heureuses et en faisant entendre que de riches bénédictions spirituelles reposèrent sur l'œuvre de Dieu, il ne faudrait pas s'exagérer le sens de ces expressions. En définitive, le méthodisme français a toujours été pauvre en hommes et en ressources financières. Il semble aussi qu'il ait dispersé son activité sur une trop grande étendue du pays, au point qu'il lui ait été impossible de grouper ses forces spirituelles et ses adhérents, et qu'il a très régulièrement perdu, par les déplacements et la dissémination de ses membres, leur entourage catholique ou irréligieux, ceux qu'avec la grâce de Dieu, il avait mis sur le chemin de la lumière, de la vérité et de la vie. Fin de citation. Alors, pour conclure cette partie, on pourrait se poser la question pourquoi le méthodisme français reste un pan oublié d'une confession pourtant vivace, je l'ai dit, sur tous les continents, sauf l'Antarctique, malgré tous les efforts de Théophile Roux et de Mathieu Lelièvre. Alors, on peut alléguer trois facteurs que vous avez peut-être devinés. Le premier, c'est cette relation de dépendance avec l'Église britannique. Cela posait un problème organisationnel de fait, et ça engendrait aussi, à mon avis, une hostilité, voire une méfiance vis-à-vis d'une confession qu'on pouvait donc facilement caricaturer comme une confession anglaise. Rappelons que, en dehors même de la période révolutionnaire, l'entente cordiale ne va s'amorcer qu'au début du XXe siècle, et même en 1905, Fashoda rappelle à chacun les rivalités entre les deux grandes puissances que sont alors la France et le Royaume-Uni. Un autre facteur qu'évoque Théophile Roux, ce sont les limites géographiques, mais peut-être aussi une difficulté à se différencier clairement, concrètement, des autres confessions protestantes. Et enfin, troisième facteur, ce qu'on pourrait appeler la concurrence déloyale des méthodistes américains. Donc j'en arrive à la conclusion de cette communication. Ce cycle de conférences portant sur l'histoire oubliée, nous pouvons nous interroger. Quelle trace écrite a laissé le méthodisme français ? La personne désireuse d'en savoir plus sur l'histoire du méthodisme français, donc je vous renvoie à la bibliographie que certains d'entre vous ont eue, et se tournera d'abord vers l'ouvrage du pasteur Théophile Roux, donc « Le méthodisme en France », sous-titré, comme vous le voyez, « Pour servir à l'histoire religieuse d'hier et d'avant-hier », publié en 1940 et jamais réédité. Cet ouvrage, tourné vers le passé malheureusement, comme le sous-titre le dit explicitement, cet ouvrage représente une synthèse très utile et très claire sur l'histoire de cette confession. Poursuivant dans cette voie, les travaux utiles de la Société d'études du méthodisme français, fondée à Montpellier en novembre 2011, permettent d'aller plus au fond des choses sur des points assez précis. Ainsi, les actes de deux journées d'études qui se sont tenues en 2014 et 2015 ont été publiés sous le titre de « Facettes du méthodisme français » aux formidables éditions Ampelos en 2016. Un troisième volume qui traitera particulièrement des missions, et je crois comprendre, devrait être publié. Il s'agit des actes d'une journée d'études qui s'est tenue en 2017. Donc ces deux, bientôt trois volumes, peuvent donc intéresser les lecteurs soucieux d'aller plus loin. Plus largement, le lecteur francophone désireux d'en savoir plus sur le méthodisme en tant que confession pourra se tourner vers un autre ouvrage, aussi publié chez Ampelos en 2013, « La sanctification dans le méthodisme », lui aussi issu d'une journée d'études de la Société d'études du méthodisme français. Sur ce sujet, Bernard Cotteret propose un ouvrage, comme toujours vivant et stimulant, avec son « Histoire de la réforme protestante », donc sous-titré, on ne voit pas le sous-titre sur cette édition, je ne sais pas pourquoi, « Luther, Calvin, Wesley, 16e, 18e siècle ». Bon, si vous sautez directement à la troisième partie, je ne vous en ferai pas grief. Cet ouvrage confronte les destins et les pensées de ces trois immenses figures du protestantisme européen. Le livre a été publié en format de poche en 2010 dans la collection Tempus. Il sera utilement complété par le livre de Claude-Jean Bertrand, « Le méthodisme », publié en 1971 et, lui aussi, jamais réédité. Enfin, le lecteur francophone pourra aussi consulter les ouvrages de Mathieu Lelièvre, comme par exemple « La théologie de Wesley », publié en 1924, jamais réédité, ou « John Wesley, sa vie et son œuvre », publié pour la première fois en 1868, et qui connaîtra, lui, cinq rééditions. La troisième édition, donc, de 1891, portera l'ouvrage à 500 pages, et donc la dernière date de 1925. Entre parenthèses, le fait que la plupart des ouvrages que j'ai mentionnés n'aient jamais été réédités montre bien que le méthodisme français est bien une histoire oubliée. Si, comme moi, vous avez la chance de lire la langue de Shakespeare ou de Theresa May, vous n'aurez bien sûr que l'embarras du choix et vous pourrez même lire la Bicentennial Edition des œuvres de John Wesley, commencée en 1984, j'avais alors 2 ans, et qui devrait, une fois conclue, compter 35 volumes. Copieusement et magistralement annoté. Le 32e volume, sorti en août dernier, est consacré aux écrits médicaux de John Wesley. Dans la multitude des ouvrages en anglais consacrés au méthodisme, le néophyte pourra commencer par le John Wesley and the Church of England de Frank Baker, donc publié en 1970 et réédité en 2000, donc je crois que c'est la deuxième édition. Je vous montre la couverture. Donc cet ouvrage se limite, si j'ose dire, à la vie de John Wesley et expose en détail les relations de celui-ci avec le clergé d'alors, ainsi que la manière dont il développa sa théorie des ministères. Donc c'est à la fois chronologique et thématique, c'est un très bon point de départ. Le lecteur anglophone pourra ensuite s'atteler à la lecture des quatre volumes de A History of the Methodist Church in Great Britain, publiés entre 1965 et 1988, donc les quatre volumes datant de 65, 78, 83 et 88. Donc chaque volume est un recueil de contributions, on n'est donc pas forcé de tous les lire, contrairement au Harry Potter, on pourra juste choisir les thèmes de prédilection. Bon, je conclue réellement cette fois-ci en notant que donc, nous avons vu que partant du Royaume-Uni, le méthodisme s'est répandu dans le monde entier, suivant cela non seulement l'injonction christique en Matthieu 28-19 de faire de toutes les nations des disciples, mais aussi l'affirmation de John Wesley selon laquelle le monde entier était sa paroisse. Le méthodisme eut des fortunes diverses selon les pays où il pénétra, mais force est de constater deux choses. Première chose, le méthodisme eut plus de succès dans les pays de culture anglophone. C'est vrai encore aujourd'hui, les pays où le méthodisme est très fort, très vivace, ce sont souvent d'anciennes colonies britanniques. Deuxième observation, le principal vecteur, surtout au XXe siècle, fut les missionnaires venus des États-Unis. En ce qui concerne la France, on a dit, le méthodisme avait peut-être trop de handicaps à surmonter. Mais inutile de l'enterrer, il est encore vivant. On pourrait conclure sur une métaphore très fréquente dans le discours méthodiste, celle de la flamme. En 1555, au moment d'être brûlé vif pour ses convictions protestantes, l'évêque anglican Hugh Latimer eut ce mot fameux pour réconforter son co-accusé Nicholas Ridley. Donc je cite en français, « Maître Ridley, nous allumons ce jour un cierge dont je crois qu'avec l'aide de Dieu, il ne s'éteindra jamais en Angleterre. » Eh bien, on pourrait dire que la bougie du méthodisme, que ce soit au Royaume-Uni, le cierge du méthodisme, pardon, que ce soit au Royaume-Uni ou dans notre pays, ne s'est jamais éteint, ne s'est pas éteint et, je crois, ne s'éteindra jamais. Merci de votre attention.
Merci Jérôme pour cette introduction dans l'histoire du méthodisme français que tu as utilement rattaché, nécessairement rattaché donc à son origine anglaise et anglicane en particulier, tu l'as souligné, même peut-être comme un handicap pour son implantation dans le territoire français. Tu nous as rappelé que c'était une micro-minorité hein, au sein de la minorité protestante française, une micro-minorité qui pourtant a joué un rôle considérable, car un grand nombre encore de pasteurs français actuels ont des origines méthodistes. Je pense par exemple au pasteur André Gounel, donc, qui est une famille méthodiste aussi. Et évidemment, cette histoire, tu l'as souligné aussi, notamment au sujet de l'affaire des camps, a été une histoire difficile de confrontation avec les pasteurs de l'Église réformée. Tu aurais pu aussi évoquer ces conflits dans la Drôme, hein, puisqu'ils ont été nombreux, non seulement dans la Drôme, mais je pense aussi à Anduze, où il y a eu littéralement une affaire méthodiste, et où les réunions méthodistes ont soulevé un nombre de chahuts importants, et où il a fallu faire intervenir la police pour ramener la paix. Voilà, je suppose que cette intervention suscite de votre part des questions, donc je vous laisse tout de suite la parole pour un échange avec Jérôme. Oui, monsieur. On va répéter les questions hein, pour l'enregistrement. Oui, mais c'est pour l'enregistrement.
Ici, à peu près à une trentaine de kilomètres de la Bonnage, c'est-à-dire l'arrière au pays Limois maintenant, une plaine voilà, le long des Garines. Et là, on sévit, si je puis dire, de nombreux pasteurs méthodistes à Caveyrac, Calévisson, Montgély, Codognan. Et il y a dans ces villages des chapelles méthodistes de type légèrement britannique, avec une rosace, etc. Et il y en a une qui est encore en, qui est encore utilisée, et une chapelle méthodiste qui était très très britannique aussi, dans le quartier de la Fontaine à Nîmes, le quartier, disons, le plus bourgeois et le plus protestant de Nîmes, à 100 mètres de la Fontaine de Nîmes. Voilà. Et c'est une chapelle méthodiste que j'ai connue avec des types gothiques.
D'accord.
Voilà. Alors là, toute cette monnage a été, disons, réveillée par des pasteurs que je connais bien, puisque c'était mes ancêtres, disons. 5 générations de pasteurs méthodistes, tous originaires de Jersey. Voilà. Bon, ils sont venus ici parce qu'ils étaient bilingues. Ils ont été envoyés. Alors, Cook, un allié de ma famille, c'est le pasteur Guiton.
Oui.
Ils sont intervenus sur ce point-là. Philippe Guiton, celui qui est mort aussi, m'avait cité. Hein, c'est le seul que j'ai cité. Et ils ont tous évangélisé ou réveillé, ou dérangé fortement les églises réformées, à tel point que un pasteur réformé de moi a dit « Dépêchez-vous de vous réveiller avant que le méthodiste ne vienne le faire. » Voilà. Alors ça, c'est de... J'ai un grand-père aussi qui a créé la faculté de Vaud.
Sur scène, oui.
Qui est né à Jersey.
D'accord.
C'est lié jusqu'à mon papa, qui a été pasteur de l'église méthodiste d'Alès, il y a 30 ans. Voilà, ça c'est l'empreinte.
Oui.
Vous avez parlé d'Ambus, bien entendu, et ici, que là, cette chapelle est un monument historique maintenant.
Voilà.
Okay. Au moins.
Très bien, bah, merci.
Ça c'est l'ancrage local.
Merci pour ce contexte.
D'autres questions ou une question?
Ah.
Oui.
Je voudrais peut-être apporter une touche complémentaire. Vous le savez, j'ai été quelques années président de l'Église réformée de France. Et ma jeunesse a été marquée par une époque où les églises étaient certes quelquefois en conflit, mais aussi partagées. J'ai fréquenté assez régulièrement avec mes grand-tantes les assemblées méthodistes à la salle, comme je fréquentais les cultes de l'Église réformée évangélique à l'époque. Quand j'étais président, je ne pouvais pas oublier l'Église méthodiste parce que dans mon bureau en face de moi, il y avait des archives officielles, des conférences et synodes méthodistes qui étaient là et qui constituent toujours une référence. Et chaque année, la conférence méthodiste mondiale me rappelait que l'Église réformée de France était en fait membre de la conférence méthodiste mondiale. Mais plus profondément, plus sérieusement, je pense, il faudrait dire que si c'est vrai que le méthodisme s'est dissous d'une certaine façon, a disparu dans l'Église réformée de France, il l'a transformé de façon considérable. En particulier, une des conditions de l'adhésion, si je ne me trompe pas, a été que les méthodistes pourraient continuer à pratiquer le système des prédicateurs laïcs dans les tournées, etc. Et ça a été un élément qui a, alors la guerre aidant sans doute, transformé la vie de l'Église réformée de France avec une éclosion de prédicateurs laïcs très très rapide, qui était une chose absolument inconcevable dans une église réformée classique. Je me souviens de débats encore dans les années 70 avec l'église réformée de Genève qui disait « Mais l'église réformée de France, en fonctionnant avec des prédicateurs laïcs, trahit la bonne doctrine calviniste qui confie la prédication strictement au pasteur. » Autrement dit, moi j'apporterais un... C'est vrai que les méthodistes vont disparaître après les conflits, etc. Mais en disparaissant, il a semé quelque chose
absolument,
d'extrêmement
tout à fait
vivace jusqu'à aujourd'hui dans l'Église réformée de France et ailleurs, certainement.
Absolument, oui, voilà, il a infusé, hein, on pourrait dire, au sein de l'Église réformée de France, tout à fait, du protestantisme français en général, tout à fait.
Oui.
Je voudrais simplement revenir sur ce que tu as dit à propos de qu'on ne savait pas pourquoi, après 1870, le méthodisme français commençait à...
Oui.
alors qu'elle a monté régulièrement jusqu'à cette époque.
C'est ça, voilà.
J'ai peut-être une réponse,
ah.
Mais attention, hein. C'est une théorie, mais je crois que c'est vrai. Sinon, je ne le dirais
pas. C'est vrai, bien vu.
Donc, je pense qu'il y a quelque chose qui s'est passé au moment où Charles Cook est arrivé. Charles Cook a évangélisé donc, la Donnage en priorité, puisqu'il était à Congénie, à Claverac d'abord, puis à Congénie. Et puis, il est parti évangéliser d'abord la Drôme, les Hautes-Alpes, la Suisse romande, les Cévennes, etc., etc. Enfin, c'est surtout des grands endroits où toute la France était à l'époque rurale, et les protestants réfugiés dans les zones les plus lointaines de la ruralité française. Cook a évangélisé uniquement les populations les plus lointaines, les plus isolées, protestantes. Or, en 1852, au moment où il y a eu la prise de pouvoir par le deuxième empire,
oui.
A commencé la grande révolution industrielle en France, qui a fait qu'il y a eu un reflux de toutes ces populations vers les grandes villes, que jamais Charles Cook n'a été évangélisé. Il se dépassant se sont trouvés tout seuls. Et ça a été quelque chose que les Anglais ont totalement refusé. Mais le problème, c'est que quand ils ont voulu repartir dans les grandes villes, dans les années 1890-90, c'était trop tard.
Ouais.
Il y avait déjà l'Armée du Salut, les Macaulay, il y avait déjà les premiers pentecôtistes qui commençaient à arriver très vite, il y avait les baptistes, enfin, il y avait tout ce temps de choses qui fait qu'il n'y avait plus de place pour eux.
D'accord.
Alors, je pense que c'est...
Ça, oui, c'est, ça paraît...
Oui,
oui, ça paraît cohérent, effectivement.
Est-ce qu'il n'y a pas aussi le fait que pour devenir membre de l'Église méthodiste, l'exigence est plus forte que pour être membre des autres églises, une exigence plus forte dans la question de la discipline, notamment. Est-ce que cette exigence, qui est encore en relation avec la théologie de l'Église méthodiste, est-ce que cette exigence plus forte du point de vue de la sanctification, notamment, n'est pas rédhibitoire dans les années 1870, un moment peut-être où justement la société n'est plus apte, plus en phase à recevoir cette exigence.
Au Royaume-Uni, c'est le cas. Enfin, au Royaume-Uni, on voit un fléchissement des exigences dans l'église méthodiste, justement, où ça devient une église de masse et plus une église d'élus, de saints. Donc oui, il y a sûrement en plus ça qui posait problème, tu as tout à fait raison.
Il y a beaucoup de protestants qui ont été touchés par la prédication méthodiste et qui sont découragés à l'idée de passer 3 ans avant d'être acceptés comme membres. 3 ans de contrôle de la discipline, 3 ans d'exercice, 3 ans de vérification, finalement, que la vie est effectivement bien saine, pour devenir membre de l'Église méthodiste. Et ils préfèrent, tout en ayant écouté, en allant écouter les prédications méthodistes, tout en ayant des amitiés parmi ces méthodistes, ainsi de suite, ils préfèrent demeurer dans l'Église réformée, tout en recevant complètement ce message, et d'ailleurs en revivifiant aussi, c'est
sûr.
Très net. On le voit très nettement dans la Drôme, hein. Il y a toute une revivification de l'Église réformée qui est complètement oubliée au XIXe siècle et qu'il faudrait étudier de manière beaucoup plus systématique, mais qui est due au méthodisme. Autrement dit, l'influence du méthodisme, elle dépasse largement la quantité de membres de l'Église méthodiste, hein, puisque son influence, et son influence spirituelle en particulier, hein, eh bien, elle s'étend au XIXe siècle sur un nombre considérable de paroisses réformées, et ça n'a pas été étudié. Ça, il faudrait le quantifier, il faudrait le mesurer. Et l'influence spirituelle, là, elle est bien plus grande. À mon avis, elle est de l'ordre de 50, 60, 70% de la population réformée touchée au XIXe siècle. On l'ignore complètement, ça. Et dans la Drôme, c'est une évidence. Moi, j'ai étudié le réveil dans la Drôme, c'est très net. Et l'Église réformée, à mon sens, doit énormément, voire majoritairement, au monde et aux prédicateurs méthodistes. Mais ça, on ne le dit pas, on ne l'a pas oublié. Encore un point oublié de l'histoire méthodiste.
Oui, ça.
Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques ? Bien, bah écoutez, je vous propose de conclure cette rencontre. Si vous le souhaitez, si des questions surviennent, vous pouvez venir interroger Jérôme. Il y a aussi ici sa thèse qui est parue, qui a été publiée aux éditions Ampelos, hein, que vous pouvez retrouver sur la table. Je vous remercie de votre présence. Je vous précise donc que la prochaine conférence de la librairie est annulée, hein. puisque le conférencier n'a pas pu se rendre disponible, donc les chrétiens face au monde romain au 1er siècle. Donc la prochaine rencontre de la librairie ici sur Alès, ça sera la fondation BOSS, Servir les rejetés, avec le pasteur Galtier, directeur de la fondation BOSS, qui viendra nous présenter le travail de cette fondation. Cette conférence est annoncée à la salle de la mission Timothée à Alès. Peut-être qu'elle aura lieu finalement au Capitole pour des raisons de place, de logistique, mais on vous confirmera ça. Donc n'hésitez pas à vous inscrire à la lettre de nouvelles de la librairie. Vous serez ainsi informé en temps et en heure de la modification du lieu de la rencontre, ou alors de passer à la librairie pour vous tenir au courant, où nous vous informerons aussi volontiers de l'éventuelle modification. Nous vous souhaitons à tous une bonne soirée et je vous propose de remercier encore Jérôme pour son intervention.
Merci.